Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme au micro. Je vous parle en ce 24 mai, au lendemain du deuxième match de la finale de l'Est, remporté par les Hurricanes de la Caroline, qui crée l'égalité dans la série. C'est maintenant 1-1 face aux Canadiens de Montréal. La série qui se déplace à Montréal demain, lundi, donc ou ce soir, peu importe quand vous nous écoutez. Les Hurricanes, d'ailleurs, qui semble-t-il vont dormir plutôt loin du centre-ville, pas pour s'éloigner des partisans, mais parce qu'il n'y a pas de... Avec le Grand Prix de Montréal, le Grand Prix de Formule 1, il n'y a pas vraiment de chambre disponible au centre-ville. Ça va se résorber plus la semaine va avancer. Mais pour l'instant, en fin de semaine, bien évidemment, c'est la folie du Grand Prix à Montréal. Donc, les Hurricanes, un petit défi pour amorcer la série. On va voir, pas amorcer la série, mais amorcer ce passage à Montréal pour la série. Donc, on va suivre tout ça. On va suivre ça. Bien évidemment, on va parler de ça aujourd'hui à l'émission avec mes collègues Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage qui vont être avec nous dans quelques secondes. Ils sont toujours en Caroline, n'ont pas encore décollé. S'en viennent à Montréal. Alors, on va parler de ça dans pas très long. Mais bon, avant de commencer, écoutez, je veux saluer les joueuses et les partisanes de la victoire de Montréal. Victoire, justement, qui est championne de la Coupe Walter. Donc, félicitations à elle. Bonne série contre Ottawa et toute une troisième période, vraiment. Donc, un trophée de hockey qui est de retour au Québec. Est-ce qu'il va en avoir un autre qui s'en vient? Bien là, c'est le défi des Canadiens. On pourrait même en avoir un autre avec les Saguenayens de Chicoutimi qui sont à la Coupe Memorial. Mais ça, bon, disons que la Coupe Memorial est revenue au Québec un peu plus récemment que la Coupe Stanley ou ben, la Coupe Walter, ça n'avait jamais été fait. Donc, bravo à la victoire! Avant de se lancer, écoutez, ce soir, match numéro 3 de la série entre les Golden Knights et l'Avalanche. On n'en parlera pas vraiment aujourd'hui au balado pour la simple raison qu'écoutez, au moment où vous allez écouter, ça va peut-être avoir été joué, ce troisième match-là. Mais bon, la réalité est simple, là, ça va pas très bien pour l'Avalanche. Tout a déraillé en l'espace de quoi 3 minutes. Là, dans le match numéro 2, les Golden Knights qui mènent maintenant 2-0. Cale Makar n'a pas joué les deux premiers matchs. C'est là que tu vois toute l'importance de ce défenseur-là, de ce jeu. C'est probablement le meilleur défenseur de la Ligue pour l'équipe qui est l'Avalanche, donc pour la relance, pour tout ça. Donc oui, ça s'annonce extrêmement difficile. Je ne sais pas ce qu'on va apporter comme changement. Est-ce qu'on va changer de gardien du côté de l'Avalanche pour ce soir? Ben écoutez, allez sur le site de lnh.com, lire un peu tout ça. Comme je dis, on n'en parlera pas au balado. Là, ça ne donnera pas beaucoup. Ça n'aura pas beaucoup de longévité aujourd'hui. Donc, on va vraiment se concentrer sur Canadiens Hurricanes. Mais c'est ça, allez sur le site de lnh.com pour tout savoir sur cette rencontre-là. Et si vous nous écoutez sur le site de lnh.com, si vous nous écoutez en audio, mais sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado qui peuvent exister, entre autres Apple, Spotify. Abonnez-vous, suivez-nous pour ne pas rater le moindre balado. On en fait un aujourd'hui en ce dimanche. Le prochain devrait être jeudi après le quatrième match de la série. Donc, c'est ça. Et suivez-nous. Réseaux sociaux, tout ça, LNH sur Facebook, LNH par dessus l'humain FR sur X, Instagram, Blue Sky, Threads, j'en oublie sur le peut-être, là, mais en tout cas, pour être certain de rien manquer de tout le contenu de LNH.com. Alors, on lance l'émission. Je les rejoins les deux en direct de Raleigh, où ils sont encore là au lendemain du match d'hier. Ils décollent dans pas très long. Guillaume Lepage, salut Guillaume.
Salut Nick.
Et Jean-François Chaumont, salut GF.
Salut, bon matin.
Bon matin, messieurs. Merci d'être là. Vous sortez de la conférence de presse des Canadiens. Je ne sais pas si c'était pas à l'aréna, hein, si je ne me trompe pas.
Non, conférence de presse côté de North Hills, l'hôtel du Canadien. Martin Saint-Louis, Jake Evans et Nick Suzuki ont rencontré les médias pour, bon, quinzaine de minutes avant de partir, retour en direction de Montréal pour le CH.
Comment se portait le moral ce matin au lendemain de cette défaite en prolongation de 3-2?
Correct. Écoute, je pense que si tu avais demandé aux Canadiens, serais-tu heureux d'avoir une égalité de 1 après 2 matchs, le classique, ils auraient dit oui. L'autre enjeu, par contre, c'est que le CH devra gagner à Montréal. Depuis le début des séries, c'est seulement 2 victoires. Donc, il y a beaucoup été question du jeu devant les partisans du Centre Bell. Nick Suzuki a dit que parfois, ils ont peut-être tendance à trop vouloir en faire. Il y a l'excitation, le Centre Bell demi-enflammé quand il patine avec la rondelle. Peut-être que loin de Montréal, on joue un jeu plus simple, plus linéaire. Donc, est-ce qu'on peut apprendre des 2 premiers tours contre le Lightning, contre les Sabres? Question de corriger certaines lacunes à la maison. Mais c'était une matinée tranquille, pas de grandes déclarations. On, Martin Saint-Louis, par contre, a dit que Lane Hutson est correct. Lane Hutson, ouais, qui ça. A été frappé quand même lourdement là, par Taylor Hall en prolongation. Il n'a pas eu le temps de revenir au jeu parce que le but gagnant était marqué une minute et des poussières plus tard. Mais la bonne nouvelle, Lane Hutson ne serait pas blessé, donc sera à son poste pour le troisième match.
Parfait. On va mettre la table pour le troisième match un petit peu plus tard dans l'émission. Mais justement, revenons sur cette deuxième rencontre-là. Encore une fois, ça ressemblait à ce qu'on avait vu parfois dans la série contre les Sabres, contre le Lightning. C'est-à-dire on avait réussi chez les Tricolores à survivre jusqu'en prolongation. Tous les espoirs sont permis à partir de là. On avait même eu une bonne... La fin de la troisième période, c'était bien déroulé. Mais ça n'a pas tourné à l'avantage des Canadiens. Erreur d'Oliver Kapanen qui a mené à ce but gagnant-là. En quelque part, les Hurricanes la méritaient pas mal plus que les Canadiens, là, ce deuxième match-là.
Ouais, les Hurricanes sont revenus à leur style de jeu. Là. Après le premier match, je pense qu'on s'entendait tous pour dire que c'était une anomalie, un peu ce qui s'était passé. Là, les quatre buts rapides en première période qui étaient tous le résultat de mauvaise couverture défensive des joueurs de la Caroline. Donc, on s'attendait à une réplique assez forte de la part des Hurricanes. Ça a été le cas. Mais je pense que, puis tu sais, Martin Saint-Louis disait ce matin, là, il ne faut pas se laisser influencer par le nombre de tirs et tout ça. On comprend que le Canadien a eu beaucoup de difficultés à générer des chances en zone offensive, mais dans sa zone, moi, j'ai trouvé que le Canadien n'a pas donné grand-chose, même si par moment, ça tournait. Moi, je le répétais à GF, c'est à des mille, ce qu'on a vu hier, c'était à des mille de ce qu'on a vu contre les Sabres de Buffalo. Quand les Sabres de Buffalo se mettaient à tourner en territoire des Canadiens, en l'espace de 30-40 secondes, on avait une chance de marquer dangereuse parce que le Canadien perdait une couverture. Les défenseurs des Sabres étaient très actifs. On ne retrouve pas vraiment ça du côté de la Caroline. Puis j'ai l'impression que ça aide le Canadien à vraiment maintenir sa couverture homme à homme. On tourne, mais on n'accorde pas de chance de qualité. Donc défensivement, je pense que hier, cette partie-là, pour le Canadien, ça a été très, très bien. Après ça, on a eu quand même de la difficulté à générer des choses offensivement. Le jeu en transition, les Hurricanes ont vraiment ajusté le tir en zone neutre. Puis ça a vraiment nuit aux Canadiens. Mais somme toute, tu regardes à la fin du match, les chances de marquer dangereuses, c'était 17 en faveur des Hurricanes. Le Canadien a fait quoi? 12 tirs au but? 7 chances dangereuses là-dessus, c'est quand même un bon taux d'efficacité. Je pense qu'il y a quand même un petit positif à tirer de ce match.
Oui, puis tu sais, si je peux ajouter justement sur le nombre de tirs, ça fait pas foi de tout, mais l'inverse est tout aussi vrai. Là. Hier, on a donné 26 tirs en 63 quelques minutes de jeu. Ben, avant le début de la série, les Hurricanes, c'était une moyenne de 33,9 tirs par match là, contre les Sénateurs, contre les Flyers en deuxième ronde. Donc oui, vraiment, on a fait un bon travail défensivement. Mais écoutez, je ne sais pas si la glace était plus maganée d'un bord que de l'autre hier. Pourtant, les Canadiens...
La glace était maganée en général, je pense.
Ben, c'est ça, mais écoute, pourtant, les Canadiens, on est habitués au nid de poule du Québec, là. Des passes qui rebondissent, on devrait être capable de les attraper. Mais c'était ça. L'exécution a vraiment fait défaut en sortie. Tout cassait avant l'arrivée à la ligne bleue. C'est pas que les Canadiens ont mal fait en zone offensive, on réussissait pas à s'y rendre parce que souvent on était responsable de notre propre malheur.
Moi, mais Nick Suzuki le disait aussi après le match, tu sais, qu'est-ce qui expliquait le déséquilibre dans les tirs, 26-12, mais les tirs tentés aussi, c'était une soixantaine de tirs pour les Hurricanes contre 36 ou 38 pour Montréal. Suzuki disait que l'exécution faisait défaut et également en supériorité numérique, on a généré un gros zéro du côté du CH. C'est 0 en 2, il n'y a pas eu une tonne de punitions non plus du côté des Hurricanes. Mais c'est vrai que je pense qu'on a revu davantage l'identité des Hurricanes. C'est une équipe.
Absolument.
L'ADN, c'est un grand volume de tirs vers le filet. C'est une pression aussi sur le porteur de la rondelle. Il donne peu de temps et d'espace. Au premier match, trop souvent, les joueurs se sont fait piéger. Deux joueurs qui allaient sur le même gars du Canadien, ça ouvrait la porte pour une relance. Il y a eu, je pense, 3 échappés en première période dans la première rencontre. Mais c'est une équipe qui sortait de 11 jours de pause. Il y avait de la rouille à chasser. C'était pas un match horrible du côté du CH. C'est un match où ils ont tenu tête aux Hurricanes. C'était 2-2 après 60 minutes. Josh Anderson qui marque les deux buts. Tu te dis, OK, peut-être qu'ils vont gagner un deuxième match sur la route. En prolongation, Martin Saint-Louis avait comme philosophie d'utiliser tous ses joueurs. probablement qu'il s'attendait à une prolongation assez longue, où on doit comprendre aussi que le CH vient de jouer, maintenant c'est 16 matchs, les Hurricanes en ont joué 10. Il y a quand même plus de fatigue dans le camp du CH. Il y a un désir de rouler son banc, mais la présence d'Oliver Kapanen a fait drôlement mal. Pourquoi je cible Kapanen? Mais c'est lui qui rate un petit dégagement en zone neutre. Il va du bout du bâton, est incapable d'envoyer la rondelle en fond de territoire. Résultat, Jalen Chatfield bloque facilement son dégagement. Il va pour la relance en se servant de la bande. Nikolaj Ehlers qui fonce à pleine vitesse. Il y en a qui ont critiqué Noah Dobson parce que Noah Dobson donne trop de temps et d'espace à Ehlers. Mais Dobson, lui, voulait changer. Donc, il avait commencé quelques coups de patin en direction du banc pour un changement. Voit qu'il n'y a pas le temps, se fait piéger, revient. Ehlers décoche un tir parfait, c'est le but gagnant. Puis après le match, Martin Saint-Louis a quand même été irrité quand Guillaume Lefrançois de la presse lui a demandé justement qu'est-ce qui fait en sorte que le quatrième trio était si rapidement sur la glace en prolongation. Saint-Louis n'a pas voulu répondre, n'a pas aimé la question. Probablement qu'il aurait voulu qu'elle soit ciblée davantage, mais on peut se poser des questions justement. Est-ce que Kapanen va maintenir sa place au sein du centre du quatrième trio ou est-ce qu'on va revoir Joseph Veleno? Le quatrième trio des Hurricanes a quand même causé beaucoup d'ennuis à celui du Canadien dans ce match. Mark Jankowski, William Carrier et Rick Robinson ont passé beaucoup de temps en zone adverse. C'est pas trois joueurs étoiles, là. C'est deux gars qui vont nord-sud, Carrier frappe, Robinson deux buts en deux matchs, donc peut-être qu'un petit réajustement au sein du quatrième trio pourrait aider à cause du cas.
La question, c'est est-ce que Kapanen va avoir droit ou non au traitement Kirby Dack? Souvenez-vous, en première ronde, quand Kirby Dack avait fait son erreur, avait fait le dégagement fusé, puis le Lightning l'a emporté grâce à ça. Par la suite, Martin Saint-Louis avait tourné la page, avait gardé Kirby Dack dans la formation. Là, il faudra voir justement. On en reparlera tantôt là, au niveau du troisième match des trios et tout ça. Moi, ces deux premiers matchs-là me font penser au début de la série contre les Sabres. Et là, je ne changerai pas ma prédiction. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le premier match, on avait les Hurricanes qui n'étaient pas les Hurricanes. Au même titre que le premier match contre les Sabres, les Canadiens sortaient de la série contre le Lightning. On était émotifs. On n'a pas joué un match à la hauteur de ce qu'on est capable d'offrir. Là, on vient de voir plus l'identité des deux équipes dans le deuxième match. À votre avis, est-ce que la série vient vraiment de commencer là? Est-ce que là, on est capable de se placer égal à égal pour les deux équipes?
Oui, ben c'est sûr que le premier match, c'était pas une raison de paniquer là, pour les Hurricanes. Puis tu sais, ils sont restés très calmes parce qu'ils savaient que c'était pas un match typique de cette équipe-là. T'sais, autant le Canadien a fait des bonnes choses puis était prêt à disputer ce match-là, autant les Hurricanes ne se ressemblaient pas. Là. C'était vraiment une équipe mêlée, désorganisée défensivement et tout ça. Fait qu'il n'y avait pas lieu de paniquer du côté des Hurricanes. Je m'attends à ce que le match d'hier soit plus représentatif du reste de la série, c'est-à-dire des matchs serrés, pas beaucoup de chance en attaque pour les Canadiens surtout. Mais quand même, je suis quand même surpris, je dirais. Tu sais, ma prédiction, c'est Hurricanes en 5. Je trouve que le Canadien donne peut-être une meilleure opposition de ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'on voit beaucoup plus de fatigue là, tu sais, dans le camp du tricolore, qui a un peu de difficulté à suivre le rythme imposé par les Hurricanes. Bon, hier, on peut regarder les tirs et dire que ça a été le cas, mais quand même, c'est une équipe qui est assez solide puis qui s'est donné une chance de l'emporter hier quand même. Tu sais, c'était peut-être pas mérité, mais en prolongation, t'es à un tir de rentrer à la maison en avance 2-0. Puis là, les Hurricanes ont évité une catastrophe là, parce qu'on sait que le discours, s'il y avait eu une défaite hier, ça aurait été, ben là, en finale de l'Est, vous n'êtes pas capable de gagner des matchs. Est-ce qu'on voit un peu le même scénario qui est en train de se reproduire cette année et tout ça? Donc, on a replacé les choses à zéro dans la série, mais aussi on a évité beaucoup de discussions et de distractions là, dans les prochains jours par rapport à cette fiche maintenant qui est de 2-17, je crois, en finale d'association depuis la conquête de 2006.
Ouais, c'est ça.
Donc, ça a fait du bien, là, cette grosse soirée de Nikolaj Ehlers.
Tu pouvais pas, chez les Hurricanes, tu peux pas te permettre de perdre hier. Parce que justement, Là, le hamster serait mis à rouler dans la tête. Là. On va encore perdre. On n'est encore pas capable de livrer la marchandise en finale d'association. C'est quoi? C'est les trois dernières fois. On a une victoire avant le début de cette série-là. Mais là, on était rendu à quoi? Une en 14, si je me trompe pas, avec la première défaite du premier match. Puis même la victoire qu'on avait été chercher, c'était quand on tirait de l'arrière 3-0 dans la série. Donc, c'est une victoire qui est vraiment, vraiment importante pour les Hurricanes. La question que je me pose, puis c'est ça que tu disais, Guillaume, et tu t'attendais à plus des Hurricanes, qu'on soit encore plus capable d'imposer notre rythme face aux Canadiens. Est-ce que c'est présentement les Canadiens qui se défendent vraiment bien ou les Hurricanes, la rouille est encore là et on n'a pas encore élevé notre jeu où on est capable de l'élever?
Mais je pense que c'est un mélange des deux. Puis les Hurricanes ont probablement réalisé après deux matchs qu'ils ont devant eux une bien meilleure équipe qu'aux deux premiers tours, que ce soit les Sénateurs ou les Flyers. On a beau décrire les Hurricanes comme un géant, l'équipe qui a fini au sommet dans l'Est, c'est pas un géant non plus qui est inatteignable pour le CH. Comme Guillaume, j'ai choisi les Hurricanes pour gagner cette série-là, mais tu regardes la force de frappe de la Caroline, il n'y a pas un Kucherov, il n'y a pas un méga star à l'attaque qui peut changer le match en un claquement de doigts. Il y a eu un changement stratégique aussi à la deuxième rencontre pour Rod Brind'Amour. Il a choisi d'utiliser Jordan Staal, Nikolaj Ehlers et Jordan Martinuk contre le premier trio du CH, contre Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Le résultat était plus probant du côté des Hurricanes. Premier match, on ne se souciait pas vraiment des confrontations. On pouvait y aller premier trio contre premier trio. Oui, Sébastien Nao est un bon centre quand même défensivement, mais Staal est plus lourd, plus fatigant. C'est un ancien finaliste du trophée Frank Selke. C'est un gars qui est quand même très bon défensivement. J'ai hâte de voir. Le Canadien peut très bien rivaliser avec les Hurricanes, mais le danger, c'est peut-être plus la série va se prolonger. Est-ce que c'est là, quand on va rentrer dans les matchs 5, 6, peut-être 7, que la fatigue pourrait se ressentir? C'est à voir, mais c'est vrai que les Hurricanes ont évité le scénario catastrophique, là, rentrer à Montréal à 0-2. La côte a été très abrupte pour la Caroline.
Tant qu'à répéter nos prédictions, moi j'avais dit Caroline en 6, puis je voyais ça présentement comme c'est premier match aux Canadiens. Les Canadiens vont en gagner un à domicile aussi, on est porté par la foule, puis tout ça. 2-2 après 4 matchs, mais là après ça, c'est la fatigue qui risque d'entrer. Mais bon, s'il y a de quoi que les Canadiens ont prouvé durant les séries, durant la saison aussi, c'est qu'on n'est jamais battu, jamais on se laisse... On se laisse débiner. Même dans le match d'hier, c'était ça aussi. On a quand même réussi à s'en sortir. Un des joueurs qui livre la marchandise présentement chez Tricolore, qui justement vit dans cette attitude-là puis tout ça, c'est Josh Anderson. J'ai trouvé que contre les Sables, le septième match, Josh Anderson a été le meilleur attaquant des Canadiens. Hier, j'ai encore trouvé que c'était le meilleur attaquant des Canadiens. À quel point ce gars-là a un impact sur ce club-là? Quand on parle, il faut que tantôt, tes jeunes joueurs de vétérans de qualité... Josh Anderson, présentement, fait ce travail-là.
Philippe Dano est pas loin aussi. Son joueur de centre, oui. Connaît de très, très, très bons matchs depuis le septième match à Buffalo. Mais Anderson, c'est vrai qu'il peut donner un petit peu le chef d'orchestre. C'est lui qui va donner le beat à l'équipe par son intensité physique, par son coup de patin. C'est lui qui a marqué deux buts aussi dans le match numéro 2 contre les Hurricanes. Mais c'est un trio qui est crucial pour le CH, celui de Texier, Dano, Anderson.
Puis je j'aimais bien aussi, tu sais, on parlait de l'importance de la profondeur, puis bon, les trios entre guillemets d'identité, là. J'aimais bien ce que le trio de Véleno, Dak, Bolduc amenait contre les Sables. Je trouvais que les trios de profondeur, ça parvenait à installer le rythme en zone adverse, à y aller de bonnes séquences en échec avant. Puis j'ai eu l'impression que l'arrivée de Kapanen a peut-être chamboulé vraiment. Là, on en a parlé tantôt, là, mais Bolduc gagne des batailles le long de la rampe. Est un peu un Josh Anderson version un petit peu moins...
Bon, light, là, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est pas le même prototype de joueur, mais joue avec la même énergie, la même fougue. Capable de gagner ses batailles. Puis là, j'ai trouvé que dans les derniers matchs, comme Kapanen n'a absolument aucun impact, on dirait que Bolduc travaille un peu dans le vide. Puis ça vient casser le rythme. Quand, tu sais, Martin Saint-Louis, au premier match, ça a bien été, il disait on a réussi à rouler nos quatre trios et tout ça. Puis quand le Canadien est en mesure de faire ça, ben t'as le trio d'Anderson qui va passer du temps en zone adverse. Après ça, t'as Bolduc, Dak qui vont travailler en fond de territoire. Hier, ça venait un peu casser le rythme là, parce que justement, Anderson donnait le ton, mais les autres trios n'étaient pas capables de poursuivre sur cette lancée-là. Martin Saint-Louis a repris son expression de pochette. Là. Il dit on a eu plusieurs bonnes pochettes, mais on n'a pas été capable de les coller ensemble pour faire de longs moments où on a dominé. Fait que je pense que question d'ajustement, si on voit Veleno au prochain match, j'ai l'impression que ça pourrait amener une autre dynamique un peu à la façon dont Martin Saint-Louis pourra rouler ses trios.
Depuis le début des séries chez les Hurricanes, le trio qui retenait pas mal toute l'attention offensivement, c'était Taylor Hall, Jackson Blake puis Logan Stankoven. Là, il y en a un autre qui s'est levé hier, qui est venu un peu ajouter à ses statistiques parce que justement, là, jusqu'à présent, c'était plutôt calme. Là. Nick Ehlers, les deux buts hier, premièrement son premier, là, belle pièce de jeu là, en solo là, pour venir... juste réussir à décocher un tir, là, parce que c'était pas mal ça le défi dans le pas de danse qu'il était en train de faire, de réussir à prendre un tir, puis t'as forcé Dobèche à ouvrir les jambières en le faisant déplacer. Ehlers, c'est un joueur qui, à l'image de cette équipe-là des Hurricanes, a beaucoup de profondeur. C'est un gars qui est sur le troisième trio, qui joue avec Jordan Staal, Jordan Martinook, mais qui a cette touche offensive-là qui peut sortir à tout moment. Quand il était à Winnipeg, moi, c'était un joueur que je trouvais qui était sous-utilisé. Là, tu le regardes sur un troisième trio, tu te dis, il est encore sous-utilisé. Mais hier, il y a eu l'impact qu'il est capable d'avoir dans un match.
Ouais, puis c'est ça, tu le dis, il y a quand même des choses à prouver en série. Là, tu regardes ses statistiques avec les Jets de Winnipeg à ses premières saisons. Ça n'a pas toujours été le joueur le plus productif des séries, celui qui donnait le ton, mais... Tu sais, 10 ans après le match, en série, ça prend tout le monde. Là. C'est un bon vieux cliché, mais c'est...
Les clichés, à part... des fois, c'est vrai, là, c'est ça.
Mais disons, à part le premier trio du côté des Hurricanes, qui a seulement un but à 5 contre 5, puis que, honnêtement, dans les deux premiers matchs, je ne sais pas si vous avez vu Sébastien Nao quelque part sur cette glace-là, mais vraiment, tu sais, on a vu Jarvis, on a vu Svechnikov par moment, mais je trouve que Nao est assez discret. Tout ça pour dire que, à date, les tirs de profondeur, on dirait que dans cette série-là, le quatrième trio, il n'y a aucun doute qu'il y a un impact offensif. Puis là, hier, Ehlers qui en ajoute. Donc, c'est pas une équipe d'un seul trio. Tu sais, on disait, c'est pas... Il y a un manque de peut-être de punch offensif, de grosses vedettes offensives chez les Hurricanes, mais c'est une équipe qui fonctionne par comité. Puis un soir ou l'autre, ça peut être un trio qui prend la pôle puis qui s'occupe de produire offensivement. Donc, ça donne quand même une bonne dynamique à Rod Brind'Amour. Tu sais, il peut jongler avec ses trios sans se poser trop de questions, j'ai l'impression.
C'est que ça vient à Montréal. Parlons-en maintenant. Troisième match, lundi soir, 20h au Centre Bell. T'es Martin Saint-Louis. Tu as l'avantage du dernier changement. Peut-être tu vas pouvoir soustraire Nick Suzuki puis son trio des griffes de Jordan Staal puis tout ça, mais est-ce que tu apportes des changements? Est-ce que tu gardes le même trio? Est-ce que tu gardes les trois gars ensemble? Tu veux plus d'équilibre pour rivaliser avec justement ce que les Hurricanes font? Ça serait quoi votre premier choix là, si vous êtes Martin Saint-Louis?
Moi, je pense qu'on a déjà laissé quelques indices depuis le début du balado. Je pense pas que tu sors le boulier puis tu y vas d'un gros remaniement, loin de là. Retirer Oliver Kapanen, insérer Joseph Veleno au centre du quatrième trio avec Bolduc à gauche, Dak à droite pourrait offrir un petit peu plus de punch à ce quatrième trio-là. Du côté de la défensive, j'ai pas détesté non plus les duos. Le Matheson, Dobson, Struble, Hudson, Goulet, Carrier. Struble est quand même un défenseur qui peut donner une douzaine de minutes versus Jack Eye qui en donne un petit peu moins. Hudson, par contre, du côté droit avec Struble, des fois c'est plus pénible pour lui du côté droit. Matheson et Dobson ont connu quelques ratés dans le match numéro 2 notamment. Carrier et Goulet sont quand même très stable depuis le début de cette série-là. Mais c'est certain qu'un match à Montréal, si tu peux revenir à une confrontation davantage Suzuki contre Ao, ça pourrait aider le CH. Mais les deux équipes ont de la profondeur. Là. C'est, Montréal a gagné ses séries en raison de sa profondeur. On l'a vu aussi dans le premier match. Je pense pas que c'est le moment de paniquer et de tout chambouler. Moi, je m'attends à un seul changement pour le match numéro 3.
Moi, j'ai hâte de voir si on va être capable, du côté des Canadiens, de s'ajuster en début de match. Là, honnêtement, le premier but, on dirait que c'est un classique. Là. C'est, je pose la question, on se fait un petit pool avant le début du match. Combien de temps avant le premier but? Hier, le collègue Alexis Bélanger-Champagne de la presse canadienne est allé avec un 1-33. Finalement, ça a été 1-31. Finalement, ça a été 2-33. T'sais, c'est rendu un classique. On donne le Canadien donne un but sur sa deuxième, troisième présence du match. Il est capable de revenir, mais je veux dire, à un moment donné, ça va commencer à les rattraper là, s'il faut jouer toujours du hockey de rattrapage puis essayer de répondre, surtout contre les Hurricanes. Là. On sait que c'est une équipe qui donne pas grand-chose offensivement. Si le Canadien commence son match avec un but de retard dans la première, deuxième, troisième minute, ça complique les choses aussi. Donc, ça commence à être un problème récurrent, puis on dirait qu'on trouve pas la solution à ça. Je sais pas exactement c'est quoi, à part le fait d'être capable d'établir ton échec avant rapidement dans le match, puis de pas laisser l'adversaire tourbillonner rapidement. Donc, ça aussi, c'est un problème qui va devoir être adressé dans les prochains jours, parce que ça va commencer à rattraper le Canadien.
Ouais, et à l'inverse, faudrait pas que Frederik Andersen laisse encore rentrer le premier tir comme il l'a fait dans les deux premiers matchs, parce qu'Andersen n'est pas vraiment l'ombre de lui-même. C'est sûr qu'il est, quand t'es peu mis à l'épreuve, comme c'était le cas hier, c'est difficile un peu pour un gardien, surtout un gardien qui tente de chasser la rouille. On le sait, là, tu sais, Dobesh fait bien présentement, mais il joue à tous les deux, trois jours, peu importe. Andersen, cette longue pause-là, lui, c'en est un. Il faudrait peut-être trouver un moyen de décocher plus de tirs, parce que c'est pas clair, là. T'sais, est-ce que Andersen a vraiment chassé la rouille après ces deux matchs-là? Je suis pas prêt à y croire, là. Surtout pas dans les débuts de rencontre.
Andersen n'est pas un mur non plus, là. Oui, il y avait des statistiques hallucinantes avant le début de cette finale de l'Est. Juste avant le dernier match, c'était une moyenne de 1,51, 9,32. Ça doit ressembler, là, les chiffres. Là. Il a donné seulement deux buts dans le match numéro 2. Mais c'est un gardien qui regarde souvent derrière lui, qui n'est pas en parfaite confiance, je trouve, depuis le début de la finale de l'Est. Si tu peux le menacer un petit peu plus, c'est certain que ça va aider. Puis dans le premier match, il n'y a pas eu un moment non plus où Andersen a sauvé son équipe avec l'arrêt miraculeux. Quand il y a eu des échappées, Demidov l'a mis dans sa petite poche, Phil Dano a été capable de le déjouer aussi. Donc, pour moi, Frederik Andersen, c'est pas un candidat au trophée Vézina non plus. C'est pas l'élite des gardiens de but, comme pouvait l'être André Vasilevski. Oui, c'est une saison très ordinaire pour
eux. Cette année, Andersen, l'âge commence à se faire paraître.
Je pense que ses chiffres étaient plus le reflet du jeu défensif de l'ensemble de l'équipe des Hurricanes plutôt que simplement Frederik Andersen qui était surhumain au cours des deux premiers tours.
J'en parlais justement avec Jocelyn Thibault pour sa chronique avant le début de la série. Puis ce que Jocelyn me disait, c'est à sa défense, Andersen, oui, ce que tu dis a raison, mais n'a pas laissé entrer le but qui aurait pu donner du momentum à l'autre équipe. Puis ça a vraiment été ça dans les deux premières séries. Là, dans le premier match, ça n'a pas été ça, mais ça a été, il n'y a rien qui a fonctionné pour les Hurricanes. Hier, a donné le premier tir encore. Donc, si tu cafouilles comme ça en début de match au Centre Bell, dans le party que ça va être, bien, c'est sûr que là, tu te places un peu dos au mur assez rapidement. Canadien à Montréal, ça fonctionne pas. 2-4 depuis le début des séries éliminatoires. Est-ce que vous attendez à ce que cette équipe-là, maintenant, prend en troisième ronde? Là, on commence à avoir du vécu. On sort beaucoup mieux demain au Centre Bell qu'on a sorti depuis le début des séries.
Moi, je pense que l'élément de motivation que le Canadien va pouvoir utiliser demain, c'est de se dire le dernier match qu'on a disputé au Centre Bell, ça a été une affreuse défaite de 8-3 contre les Sabres de Buffalo. Ça aurait pu être le dernier match de la saison au Centre Bell. Ça aurait pu être le dernier au revoir aux partisans là, après cette saison-là. Les Canadiens ont travaillé fort pour obtenir la chance de revenir au Centre Bell. Donc, je pense qu'on va pouvoir jouer sur cette corde-là là, du côté de Martin Saint-Louis, de dire, écoutez, la dernière fois qu'on a joué ici, ça a été épouvantable. Il a dit ce matin, je pense que c'est Jake Evans qui l'a dit, là, il ne voulait pas finir sur cette note-là, donc on va pouvoir jouer sur cette corde-là. Est-ce que le Canadien va avoir appris, on a vu dans les dernières semaines que c'est une équipe qui est capable de s'adapter rapidement à différentes situations? Celle-là, c'est des problèmes qui sont récurrents, qui durent dans le temps. Est-ce que ça va changer contre les Hurricanes? peut-être. L'énergie au Centre Bell, un match de finale d'association, je pense que ça va être assez fou. Il va vraiment falloir que les Canadiens soient en mesure de jouer le même match qu'ils ont joué, mettons, hier ou avant-hier, en restant concentrés sur le plan de match. Parce que, tu sais, je me disais tantôt, je réfléchissais, puis je me disais, si le match d'hier a lieu au Centre Bell, est-ce que le Canadien reste dans le match aussi longtemps? Parce que là, avec 5 tirs après 2 périodes, peut-être que là, on essaie d'ouvrir le jeu un peu puis d'aller chercher ce volume-là puis de créer d'essayer de générer des chances offensivement. Est-ce que ça aurait donné le même résultat? On ne le saura pas, mais c'est quand même un piège aussi là, d'essayer de donner un spectacle à tes partisans. Puis dans un match, contre une équipe qui ferme le jeu comme ça, faut pas que tu te laisses piéger par ça parce que tu vas commencer à prendre des chances. Tu vas commencer à prendre des chances pour essayer de te rendre au fil adverse. Puis les Hurricanes vont te le faire payer. C'est une équipe qui fonctionne de cette façon-là. Donc, le piège est là. Est-ce qu'on a appris des derniers matchs, des dernières sorties? Ça va être à voir.
Mais le match numéro 6 contre les Sabres, c'était clairement un mauvais match. Une varlope de 8-3. Mais les matchs 3 et 4 de CH avaient quand même bien joué. Le match 4, c'est Ukko Pekka Luukkonen qui vient changer un petit peu le cours de l'histoire. Le match 6 contre le Lightning, la défaite 2-0 en prolongation, c'était peut-être le meilleur match du CH en série. Donc, il y a quand même eu des résultats positifs sans obtenir les résultats. Ça peut être avantageux. Puis Martin Saint-Louis aussi rappelait une petite phrase importante ce matin. Lui, quand il jouait, venait jouer au Centre Bell, ça le motivait. Ça va être la même chose pour les joueurs des Hurricanes. L'ambiance est électrique. Tu sais, en Caroline, je veux rien enlever. C'est une bonne foule de hockey. Le tailgate à l'extérieur, il y a un immense stationnement pour rassembler tout le monde. Tu n'as pas le choix d'y aller en voiture. Il y a de la place.
Il y a de la place.
Mais tu sais, le vidéo d'avant-match, tu n'as pas des frissons non plus. Puis entre les périodes, qu'est-ce qu'on te présente? Tu n'as pas des frissons. On avait un spectateur au niveau 319 qui, lui, tripait sa vie. Il applaudit du début à la fin. Puis coup de chapeau, mais parce que c'est un être humain.
On pense que c'est un détenteur de billets de saison. Là. Il était à la même place.
Oui, c'est probablement un détenteur. Il est toujours là.
Chaque jeu va avoir des applaudissements. C'est sans équivoque. C'est de bons applaudissements.
Il y a deux grosses mains qui lui permettent d'applaudir avec un bruit hallucinant. Guillaume virait fou chaque fois qu'il se levait.
Mais tu veux dire ses mains à lui ou des mains en plastique? Là,
non, c'est ses mains à lui.
Il y a des mains.
Je prendrais les mains en plastique avant ses applaudissements à lui. Ce serait moins gratifiant.
Tout ça pour dire, à part Monsieur Section 319 qui encourage avec une ferveur vraiment digne de mention, c'est pas l'amphithéâtre le plus enivrant pour un joueur de hockey. Donc, je peux comprendre que les gars des Hurricanes posent les patins sur la glace du Centre Bell. Pour eux aussi, c'était wow, t'sais, ça va être un match le fun. On veut donner un bon spectacle. On veut jouer un bon match. Donc, tu sais, le CH peut être victime aussi de son propre bonheur. Le Centre Bell est le fun pour tout le monde. Si tu poses la question aux joueurs de hockey, un sondage année après année, l'endroit où vous préférez jouer un match de hockey, le Centre Bell vient pas mal toujours au numéro un.
Ouais, c'est peut-être pas le nouveau center qui est calme, là. C'est juste qu'on est tellement habitué à ce que la base soit ici grâce aux partisans des Canadiens que t'arrives ailleurs, puis effectivement, ça a l'air un peu plus calme. Là. C'est peut-être juste plus ça la norme que ce qu'on voit à Montréal, tout ça. Ce match-là qu'il y a eu lundi, le suivant mercredi, vous attendez à quoi comme résultat au terme de ces deux rencontres-là? Parce qu'on se parlera pas là, d'ici entre les deux matchs. Vous attendez à quoi comme dénouement?
J'ai comme l'impression ton scénario, Nick, se tient. Je pense qu'on va revenir ici avec une égalité de 2-2 dans la série parce que Martin Saint-Louis a démontré tout au long du printemps qu'il est en mesure de jouer la partie d'échec avec son adversaire. Mm-hmm. Premier match, anomalie, parfait. Deuxième match, Canadien a tenu son bout malgré des ajustements assez flagrants du côté des Hurricanes. Là, la balle est dans le camp des Canadiens. Puis jusqu'à maintenant, tu sais, le Canadien n'a pas perdu deux matchs de suite en série. Là. Fait que c'est une équipe qui s'ajuste très, très rapidement, qui comprend ce qu'elle doit faire pour museler l'adversaire, pour réussir à gagner la confrontation. Fait que je m'attends quand même à au moins une victoire des Canadiens là, dans ces deux matchs au Centre Bell. Puis après ça, ben ça va être dur de battre les Hurricanes deux fois de suite. Là. C'est parce que c'est une équipe aussi qui a de l'expérience et qui est capable aussi de s'ajuster.
Mais si tu veux gagner la série, tu n'as peut-être pas le choix de gagner deux prochaines à Montréal devant tes partisans. Oh. Si tu reviens à 2-2, égalité parfaite, là, tu rentres dans le crunch où la fatigue peut devenir un enjeu considérable. Écoute, moi, je pars de la simple analyse que j'ai choisi les Hurricanes en 6, donc on sait que c'est pas ça qui va arriver. Donc, ça se pourrait très bien que le CH gagne les deux prochains matchs à Montréal. Puis, je tomberai pas en bas de ma chaise parce que autant les Hurricanes ont joué un bon match défensif dans le match numéro 2, pour moi, Montréal est capable de tenir tête à la grosse machine des Hurricanes. C'est pas une équipe contre qui tu peux avoir des complexes ou quoi que ce soit. Martin Saint-Louis aussi, comme Guillaume le disait, a souvent tiré sur les bonnes ficelles, fait les bonnes corrections de match en match. Donc, c'est possible de voir Montréal profiter de l'élan du centre-ville.
Puis Philippe Danault le souligne à peu près à chaque fois qu'on lui parle. Là, il dit « J'ai jamais vu un entraîneur comme Martin Saint-Louis qui est capable de lire ce qui se passe puis de corriger les choses qui ne fonctionnent pas. » Hier, visiblement, j'ai vraiment hâte de voir en transition ce que le Canadien va être en mesure de faire au match 3 parce que c'était vraiment ça qui était la clé hier et qu'on n'a pas réussi à résoudre l'énigme posée par les Hurricanes. Mais avec une journée entre les matchs puis beaucoup de vidéos, j'ai l'impression qu'on va du côté des Canadiens, on va être capable de s'ajuster à ce qu'on a présenté hier soir.
Oui, bien, c'était un peu difficile de faire les ajustements après ce que les Hurricanes avaient offert dans le premier match. Tu sais, t'avais pas grand-chose à te nourrir, non, là, tellement ça. Que c'était mauvais comme rencontre. Par contre, puis Rod Bendamo l'a dit après la rencontre hier, il a dit on avait vu des choses chez les Canadiens qu'on pouvait faire ces ajustements-là. On les a faits. Puis il a regardé la journaliste qui a posé la question, puis il dit puis je te dirai pas c'est quoi. Fait que ça s'est résumé à ça de la part du toujours souriant et exubérant Rod Bendamo, si on peut le décrire de la sorte, alors que c'est pas mal l'opposé. Les gars, merci d'avoir été là ce matin. Je vous laisse aller prendre votre avion pour revenir voir, pour vous déplacer vers Montréal et voir vos proches surtout, puis accessoirement oui. Le match numéro 3 de la série. C'est quand même le fun, parce que là, vous n'êtes pas, tu sais, les autres années, quand les Canadiens n'allaient pas loin, là, vous étiez d'une ville à l'autre tout le temps, là, au moins on peut revenir à la maison puis voir la petite famille.
On fait le décompte. L'an dernier, c'était 18 matchs au printemps, en tout et partout, de la première à la dernière ronde. Puis demain, ça va être déjà le 16e. Donc, c'est un printemps plus occupé un peu.
C'est vrai.
Espérons, je ne veux pas.
Moi, je me souviens.
Ça va être le 17e.
17e, bon.
17e, et c'est vrai. On est déjà 16.
Les gens de Montréal vous font dire qu'il vous en reste encore à peu près 7-8 à courir.
Hier, Josh Anderson a terminé sa mêlée de presse en disant il n'y a personne dans ce vestiaire qui s'attendait à une courte série. Encore une fois, on va vivre une longue série. Ouais, là, j'ai vu le chiffre 7 bondir dans ma tête. Commencer à être nerveux. Puis là, déjà, c'est un stress parce qu'on retournait à l'hôtel où il y a une convention de bandes dessinées japonaises avec plein d'êtres humains déguisés de façon farfelue. Fait que déjà, ça, c'est un stress parce que tu te prépares mentalement à croiser quelqu'un avec trois épées dans le dos, avec un sabre, quelqu'un qui promène un chat en toutou, qui promène un poisson. Puis il y a probablement, c'est ça, on doit probablement raccrocher vite parce qu'il y a un tournoi de Donjon Dragon aussi qui part à midi. Puis Guillaume voulait s'inscrire avant notre vol.
Ouais, mais attention parce que.
Tu n'aurais pas le temps de finir la game, je pense.
Ouais, mais c'est parce que le problème, c'est qu'ils ne te laisseront pas ramener ton épée en mousse quand tu vas passer l'aéroport, le contrôle. Donc, laisse ça là. Mais si tu vas te battre un peu, tu peux le faire.
Non, Guillaume, moi, je vais écrire un petit papier à la place. C'est plus ça. Je laisse la portion Donjon et Dragon à Guillaume qui, hier soir, en attendant au lobby pour poser une question, raffolait justement de cet environnement-là. Donc,
en même temps, là, si tu peux écrire sur un papier sur Guillaume qui se bat dans des Donjons Dragons.
Ça serait spectaculaire. Pas Donjon Dragon, ça prend une grande épée aussi pour Guillaume. Ça, c'est.
C'est sûr qu'il y a un bon avantage. Parce que je suis pas sûr qu'au Moyen-Âge, des gars de sa grandeur, ça existait. Non, là, fait que Guillaume, il part avec beaucoup d'avance pour un combat de la sorte. Hey, les gars, je vous laisse partir. Merci d'avoir été là. Prochain balado, jeudi, probablement, on va se parler après le match 4 pour faire un bilan des deux rencontres qui vont s'être déroulées à Montréal. Les gens, justement, peuvent lire tous vos textes sur lnh.com. Chers auditeurs, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, tout ça, Instagram, X, pour vraiment voir ce que les deux gars font. Et merci beaucoup d'avoir été là, messieurs.
Toujours un plaisir.
Ça fait plaisir.
Et chers auditeurs, ben merci aussi beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, cet après-midi, peu importe quand vous nous écoutez. Et on se reparle très bientôt.